La division, mais la division évangélique. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit là? Nous le savons bien, c'est ce glaive de feu qui sort de la bouche du Christ et qui... C'est ce feu-là qui vient sur la terre et qui est un feu de division. Alors pourquoi, comment l'évangile peut-il être, eh bien, une division? Ça paraît paradoxal. Mais voilà, le monde n'appartient pas à Dieu. Alors quand la parole de Dieu vient en ce monde, eh bien oui, c'est la division. Il s'agit de la contestation des valeurs du monde qui constitue le noyau de l'évangile, sa logique, son dynamisme. Parce que tout l'évangile, c'est de nous dire que la vérité ultime, elle est au-delà de ce monde. Le message du monde, lui, au contraire, c'est de nous dire que la vérité ultime, elle est là, ici-bas et pas ailleurs. Il y a donc deux vérités qui s'opposent et une seule est véridique. La division dans l'Écriture, ça nous est familier. Pensez au chapitre 11 de la Genèse qui nous décrit un épisode si fameux, la division des peuples de la terre à l'occasion de la tour de Babel. Dieu regarde cet édifice et il le trouve mauvais, franchement, et il descend et il divise les langues des peuples, les peuples qui s'étaient unifiés pour la première fois de l'histoire, eh bien, se trouvent divisés à nouveau par Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette tour, il y a ce salut nécessaire des hommes. C'est ce que dit Dieu dans le texte de la Genèse. Oh là là, mais s'ils continuent ainsi, ils deviendront comme nous. Nous, c'est sous-entendu la Trinité. C'est ce « nous » de majesté qu'on n'identifiait pas avant la révélation de Jésus, le « nous » trinitaire. Oui, ils seront semblables à nous, pas en termes de puissance, bien sûr, mais en termes de volonté. Ils seront capables de s'opposer à nous et de nous rejeter éternellement. C'est donc pour le salut des hommes que Dieu est venu diviser les hommes à la préhistoire de la foi. Je dis la préhistoire parce que les 11 premiers chapitres, ça nous décrit un résumé de la foi des habitants de la terre depuis la fondation du monde. Et chapitre 12, le chapitre suivant, commence avec l'histoire proprement dite, c'est celle d'Abraham. Là, l'histoire de la foi commence. Donc, Babel, cette division des langues, c'est le dernier épisode de la préhistoire de la foi. C'était le premier grand combat et c'est Dieu qui l'a mené en personne. Une unification du monde contre Dieu, par rejet de Dieu. C'était ça l'enjeu, cette tour qui devait rejoindre le ciel. Et une tour sans roi, c'était la tour que les gens adoraient en quelque sorte. Vous savez, dans tous les textes de l'Ancien Testament, les palais, c'est fait pour les rois. Or, ce monument-là, il est symbolique qu'il ne servait pas de palais pour un roi en tant que tel. C'était un idéal. On appellerait ça une idéologie de nos jours. Oui, la tour de Babel, c'était une idée qui gouvernait l'unification des peuples. Et cette idée, c'était le rejet de Dieu et la divinisation des hommes. Dieu les a divisés. Et Jésus, eh bien, a la même pédagogie que le Père dans l'Ancien Testament. Il divise, lui aussi, par son message, par l'évangile qu'il professe, eh bien, il divise les hommes, même au cœur de leur famille. Et on comprend que la division tourne autour des valeurs du monde et de leur contestation. On trouve partout des gens qui sont bien dans le monde et dans les valeurs qu'incarne le monde, du moment que le monde ne se retourne pas contre eux et qu'ils sont toujours bénéficiaires, ça va de soi. Mais ceci étant dit, eh bien, le monde, il trouve ça bien, et que peu importe ce que peuvent faire les sociétés athées contemporaines, quels que soient les projets, c'est bien puisque c'est un projet de l'homme, c'est un projet d'un progrès soi-disant indéfini. C'est une idée fort mensongère, il n'y a pas de progrès linéaire dans l'humanité, ça n'existe que dans la spiritualité, cette idée pure du progrès. Et bref, on revient à Babel. Alors nous, on appelle ça aujourd'hui la mondialisation. Mais on voit que la mondialisation, au lieu d'avancer triomphalement, comme sur un char d'or et de lumière, eh bien, elle craque de partout avec le Covid, avec les crises économiques, avec les disputes, évidemment, les guerres entre les États, etc., etc. Ça n'a rien de linéaire, cette progression-là. Donc, le Christ divise, parce qu'il dénonce les valeurs du monde. Il les dénonce à cause de la position du monde par rapport à Dieu, par rapport à l'amour et par rapport à la vérité. Jésus, lui, est venu nous apporter l'idée définitive par révélation que Dieu est bien notre Créateur et qu'il est aussi notre Sauveur. Il est venu nous révéler ce qu'est l'amour véritable et enfin ce qu'est la vérité en tant que telle, cette pure lumière que notre intelligence, que tout notre esprit désir. La confrontation, la division, donc, c'est une confrontation entre immanence, l'immanence du monde, il est refermé sur lui-même, il ne fonctionne que par rapport à lui-même et pour lui-même. Vous voyez, il crée sa petite vie intérieure, en quelque sorte, la planète Terre, mais du côté renfermé. Et contre quoi ? Opposé à la transcendance, aller au-delà des frontières de la matière, pour aller dans l'incréé, pour aller dans l'éternité. Et ces deux conceptions sont tellement différentes, eh bien qu'elles se font une véritable guerre. Il n'y a pas de système athée qui soit neutre, qui soit indifférent vis-à-vis de la foi. Ils le rejettent tous. C'est comme ça. Parce qu'il y a l'idée de la transcendance dans la foi chrétienne. Et la vraie transcendance, pas la pseudo-transcendance des Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils disaient les Égyptiens ? Eh bien qu'au-delà de la mort, eh bien on vit la vie humaine de la même façon, mais dans une autre dimension. Le soleil, pendant le jour, il éclaire le monde des vivants, et puis il ne va pas se coucher parce qu'il va éclairer le monde des morts pendant 12 heures. C'est donc l'autre dimension, le reflet, vous voyez, la symétrie. Mais c'était la même existence avec les morts, être un toit sur la tête, se nourrissent, communiquent, etc. Ça, c'est la fausse transcendance. Ce n'est pas une transcendance, puisque c'est jamais que l'éternité ou l'éternisation de la vie présente. Et c'est ça l'immanence. L'immanence, c'est rendre éternel ce qui est encore passager dans son idéal, s'entend. Les hommes voudraient, même encore aujourd'hui, rendre éternel ce qu'ils ont ici-bas, quitte à se télécharger dans des machines, imagine-t-il. La confrontation, elle est rude. Elle est tellement rude qu'elle se retrouve au sein même des familles. Il y a ceux qui communient aux valeurs du monde dans les familles, et puis il y a ceux qui communient au cœur de Dieu, point. Il n'y a pas de milieu. Tant qu'il y a un milieu, ça veut dire qu'il y a un non-choix, quelqu'un d'étiré entre les deux pôles. Mais rapidement, chacun prend position au long de l'existence. Un feu sur la... Alors, j'achève en disant que l'immanence du monde, lorsqu'elle est conçue comme une demeure éternelle, eh bien nous savons, en tant que croyants, nous savons ce qu'elle c'est. Et ça existe, c'est l'enfer. L'enfer, c'est le monde qui rejette Dieu, ce monde-là qui demeure éternellement loin de Dieu. C'est ça l'enfer. Alors vraiment, souhaitons au monde et comprenons que l'intervention de Dieu à Babel et toutes les interventions de Dieu par l'Évangile, par la contestation évangélique, eh bien, nous sauvent. Ce n'est pas du tout un fardeau difficile à porter. Bien sûr, aux yeux du monde, on est comme Jérémie, c'est un fardeau, on est contesté par tous, incompris, et ça conduit à des rejets, voire à de véritables martyrs. C'est le cas de la grande figure que nous célébrons aujourd'hui, Maximilien Kolbe, donc mort martyr dans un camp de concentration pour sa foi. Je suis venu porter un feu sur la terre. Le feu, c'est un symbole divin. C'est pas le feu matériel ici dont parle Jésus. Ce feu, c'est ce qui purifie tout, c'est ce qui fait apparaître le vrai, qui brûle le faux, qui brûle les illusions. C'est le feu du jugement, et ça appartient au langage du jugement, le feu divin. Oui, ce feu-là nous est donné à travers les évangiles, à travers les valeurs évangéliques, à travers les enseignements de Jésus. Et quand nous mettons le réel en balance avec ce feu-là, eh bien, nos yeux de croyants s'ouvrent et comprennent quels sont exactement les enjeux du monde et la pesanteur de plume que représente le monde en réalité. Le feu, c'est, vous savez, dans l'Apocalypse, pour imiter Dieu, pour singer Dieu, le faux prophète, la seconde bête, suscitée par le dragon, eh bien, fait venir, il accomplit des tas de prodiges. Et le plus étonnant de tous, c'est qu'il réussit à faire venir un feu du ciel sur la terre. Vous voyez, le feu du ciel, c'est quelque chose d'ultime. C'est la parole de Dieu dans toute sa densité qui anéantit toute contestation, tout mensonge possible. C'est une manifestation du divin. Bien sûr, le faux prophète, c'est pas le feu de Dieu qui fait descendre une illusion seulement, mais le symbole est là. Et c'est bien ce feu-là que Jésus allume sur la terre, a allumé sur la terre il y a 2000 ans et qui continue de brûler dans le cœur de chaque croyant. C'est une connaissance, ce feu, infusé dans les âmes, qui nous montre la nature du fondement de la vie. Ça nous fait connaître ce feu divin, là. Quelles sont les véritables valeurs sur lesquelles construire une existence et construire une famille, bien évidemment, construire une vie. Comprendre quelle est la source de la vie, quelle est sa destination, et enfin, quelle est sa vocation, son dynamisme, même s'il est temporaire. Je suis venu pour un baptême. Et on sait bien quel baptême Jésus va recevoir à la croix. Une mort d'amour pour Dieu. Une mort d'amour. Savoir mourir d'amour. Et non pas mourir par amour de soi, pour l'amour de soi. Détester la mort à cause de l'amour de soi, peu importe le sens où on prend les choses. Les hommes étaient devenus incapables de mourir en remettant leur esprit entre les mains du Père. C'est ça une mort d'amour. C'est accepter la vocation humaine, accepter ce passage qu'est la mort, accepter d'avoir ce Dieu qui, comme Père, comme autorité suprême au-dessus de nous. Et ça s'apprend tout au long de la vie. Et petit à petit, ça se renforce. Ou alors, en sens contraire. Ça se désapprend malheureusement jusqu'à une perdition éternelle. Marie, elle est la femme radieuse. Elle est la femme baptisée par excellence dans le feu divin. Marie, nous allons la fêter demain. Ce sera l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, recommandons-nous à ses prières. Maximilien Kolbe était son disciple. Lui, il regardait Jésus-Christ, l'Évangile, à travers la figure de Marie. Il priait Dieu par Marie, continuellement. Bien, imitons son exemple. Ayons confiance en la Vierge parce qu'elle brille réellement de la lumière d'en haut et que cette lumière n'est pas du tout inaccessible. Il suffit de fermer les yeux et d'entonner un Ave Maria avec de tout son cœur.